Or, on a l'occasion et le bonheur de recevoir Claire Lefort parmi nous. Bonsoir Claire, je t'en prie pour ton micro. Qui, une fois de plus, est présente pour cette nuit des chercheurs. Tu as eu le temps de faire le tour des stands, c'est bien passé ?
C'était fantastique, comme d'habitude.
Très bien.
Merveilleux, un moment exceptionnel de diffusion scientifique.
J'espère que vous aussi, vous avez profité de la nuit de la recherche, puisque personnellement, malheureusement, de mon côté, je n'ai pas pu faire d'autres ateliers ni d'autres animations. Claire est habituée donc, à venir nous voir, nous rencontrer. Un exercice un petit peu particulier cette année, puisque je vais te laisser seul dans ton, dans tes propos, tout simplement, et ce pendant 20 minutes, où tu vas pouvoir donc, nous présenter ta recherche, ton laboratoire et ce que tu fais. Bonne conférence.
Merci Chami, merci à Bob FM effectivement de participer à cet événement. C'est un moment un peu particulier effectivement, la conférence dans le noir, puisque je suis chargée de vous raconter ma vie professionnelle. Donc je vais commencer ma journée par l'arrivée au laboratoire. Alors moi je suis chercheure au CNRS, mon métier c'est de faire de la recherche. Je travaille au laboratoire XLIM à Limoges. Alors XLIM, c'est un laboratoire qui, à l'origine, s'appelait l'IRCOM, l'Institut de recherche sur les télécommunications électroniques et optiques. Il s'est un petit peu agrandi. Maintenant, il fait également des mathématiques, de l'image, de l'informatique. Et il a un département complet dédié à l'optique, avec plusieurs axes de recherche. L'un d'entre eux, c'est celui dont je fais partie, qui est l'axe optique non linéaire pour l'imagerie du vivant et de l'infiniment petit. Et donc, pour imager l'infiniment petit, on utilise des méthodes qui sont relativement connues dans le monde de l'optique et qui sont évidemment assez méconnues du grand public. Il s'agit de méthodes d'optique qu'on appelle non linéaires. En fait, on va changer la couleur du laser et en fonction de la façon dont le laser change sa couleur, on va déduire des choses sur sur l'échantillon qu'on image. Et donc les échantillons, c'est plein de choses. C'est le cancer, c'est des structures biologiques, c'est du cerveau. C'est l'intérieur des vaisseaux, c'est des cellules biologiques. On fait également des tests sur des végétaux. Et donc, on s'adapte à plein de cibles différentes. Et donc, le début de la journée commence par rentrer au laboratoire. Louis, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire l'entrée dans le laboratoire ? Donc quand on rentre dans un laboratoire d'optique, ça ressemble un petit peu en... Alors est-ce que la salle a envie de nous dire ce qu'elle entend quand elle entend ça ? Alors, le noir n'est peut-être pas forcément...
Qu'est-ce que vous reconnaissez comme son ? De quoi ça vous inspire ? Des piqûres. Ouais,
c'est ça. C'est, effectivement, on entend un bruit qui nous fait penser à une salle d'urgence ou une salle de réanimation, tout simplement parce qu'on a des instruments qui tournent un petit peu comme ceux qu'on peut trouver dans une salle de réanimation. Alors du coup, on a des bruits un peu similaires. Alors ce qu'on entend comme bruit au tout début, c'est que notre salle, c'est une salle qui est une salle qu'on appelle grise, c'est-à-dire pas une salle blanche. La salle blanche, elle est aspirée avec plein de hottes. Les gens, quand ils entrent, ils sont déguisés avec une charlotte, avec une blouse. Ils ont des surchaussures. Donc nous, on est juste l'étape avant. Donc on est, dans l'idéal, on est dans une salle pressurisée, c'est-à-dire que il y a de l'air qui est soufflé et qui permet à la poussière d'éviter de rentrer. Donc nous, en optique, on déteste la poussière. Donc quand on rentre, on passe sur un tapis qui est collant pour enlever les poussières qu'on peut avoir sous les chaussures. Et donc à ce moment-là, on arrive au microscope. Et le microscope, il fait un certain nombre de bruits. Alors je ne sais pas si on peut passer le bruit de l'objectif de microscope.
«
Donc le bruit de l'objectif de microscope, c'est le bon 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 qu'on entend derrière, c'est le système de refroidissement du laser. On appelle ça un chiller. C'est de l'eau en fait qui est refroidie et qui passe dans un circuit qui permet au au cristal, le petit morceau de matériau qui permet de faire le laser, de ne pas exploser dès qu'on le met sous tension. Et donc il est refroidi à l'eau avec ce système de chiller qui fait énormément de bruit et qui a un deuxième inconvénient, c'est qu'il vibre. Et en fait, on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'il entraînait parfois dans certaines situations la vibration de la table, alors qui est imperceptible bien évidemment, sauf qu'à l'échelle du micron, c'est un millième de millionième de millimètre, c'est très petit. Un micron, globalement, c'est le diamètre d'un cheveu. Voilà. On est de l'ordre du micron. Eh bien, à cette échelle-là, quand on a une vibration à proximité, c'est un petit peu un problème. Donc, les recherches en optique, elles se passent dans le noir. Donc, c'est l'ambiance du labo, finalement, on y est dans cette salle, avec à peu près autant de luminosité, c'est-à-dire qu'on a toujours une petite lumière qui est allumée quelque part. Mais on peut être amené à être dans le noir total pour certaines manips et certaines expérimentations. Et en particulier, c'est le cas pour les expérimentations de microscopie, puisque nous faisons des expérimentations sur le vivant qu'on va sonder par une méthode qui vise à aller comprendre les composés de la cible avec ce qu'on appelle une réponse vibrationnelle, c'est-à-dire qu'on va sonder sa capacité à entrer en vibration quand on lui met certaines couleurs. Si il répond à cette vibration, ça veut dire qu'on a tel composé et tel composé. Aujourd'hui, le travail que je fais, il se fait avec deux collaborateurs principaux qui sont des collaborateurs extrêmement précieux. Ils sont tous précieux, les collaborateurs, mais ceux-là en particulier. C'est Centrale Supélec à Paris, avec qui je travaille. Ils sont informaticiens et ils sont mathématiciens. En fait, de base, ils sont mathématiciens et ils se sont convertis vers l'informatique et vers l'intelligence artificielle. Et en fait, avec le système qu'on a à Limoges, on produit des millions de données par image. Et à partir de ces millions de données par image, eh bien, il y a besoin d'avoir une approche actuellement qui est extrêmement à la mode, dont vous avez tous entendu parler, qui est l'approche d'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, l'intelligence artificielle, c'est une méthode qui est extrêmement maîtrisée. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait, on sait comment faire pour que ça marche. Ce qui est difficile à faire, c'est de faire en sorte qu'on lui donne les bonnes informations. Donc, quand je discute avec Centrale Supélec, que je leur présente ma problématique, voilà, j'ai du muscle, ça c'est mon travail de recherche, je travaille sur le muscle, avec le deuxième collaborateur précieux qui est le CHU de Limoges. Depuis un an maintenant, on a établi un partenariat très étroit avec le CHU de Limoges et avec son Centre National de Référence des Neuropathies Périphériques Rares, qui est situé à Limoges donc et qui concerne toute la France, effectivement. Et donc, au centre de référence des neuropathies périphériques rares, eh bien, il y a beaucoup de prélèvements biopsiques de muscles qui sont faits en cas de suspicion de maladie du muscle. Ça peut être des myopathies à inclusion qui sont finalement assez courantes. Et ça peut être jusqu'à des maladies rares, type la myopathie de Duchenne. Donc ce sont des maladies qui sont rencontrées à Limoges, pour lesquelles il y a tout un parcours clinique qui pourrait vous être expliqué par les médecins finalement qui effectuent ce parcours, qui passe par de nombreuses techniques. Et la technique finale qui est quasiment incontournable, c'est la biopsie. Alors la biopsie du muscle, ce n'est pas anodin du tout. C'est une biopsie qui se fait sous anesthésie générale et on prélève un morceau de muscle qui est nécessaire à faire ensuite ce qu'on appelle une analyse anatomopathologique. Et donc, on met des colorants et puis on va regarder, on va chercher des amas cellulaires, par exemple, qui sont caractéristiques d'une maladie. Et donc, ce que nous, on essaye de faire avec ce partenariat-là, eh bien, c'est de dire on va aller envoyer le laser sur des échantillons sains, c'est-à-dire des échantillons biopsiques qui ont révélé que la personne n'avait rien. C'est une façon d'éliminer un certain nombre de possibilités. Donc ils ont un stock de muscles qui présentent aucune pathologie musculaire. Alors, je précise ici, c'est le bon moment, hein, lors d'une conférence grand public, eh bien, de dire que l'ensemble de ce travail est fait avec des autorisations, évidemment, qui sont, alors je vais dire un gros mot, hein, mais qui sont plus faciles à obtenir que quand on veut manipuler le petit animal. Pour accéder à des échantillons de souris, c'est extrêmement compliqué. Alors que pour accéder à des échantillons biopsiques faits dans le cadre de prélèvements à visée thérapeutique, eh bien, c'est beaucoup plus facile, je peux le dire clairement. On a besoin d'un certain nombre d'autorisations malgré tout. On a une autorisation du comité éthique du CHU, ça on l'a obtenue il n'y a pas tout à fait un an maintenant. Et on a également l'autorisation qui est signée par les patients en leur disant on vous fait le prélèvement biopsique et on prélève deux échantillons parce que le premier va servir tout de suite à faire l'anatomopathologie et le diagnostic. Et le deuxième, on le garde, parce que si jamais on a un doute sur le premier, eh bien on a besoin d'avoir un échantillon supplémentaire. Et sur ce deuxième échantillon, eh bien il y a également la possibilité de faire de la recherche scientifique. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on a pu nouer ce partenariat. Donc le but, c'est d'utiliser notre laser pour aller sonder les échantillons de muscles qui n'ont rien, d'aller sonder les échantillons de muscles qui ont une maladie que l'on connaît, myopathie à inclusion, myopathie de Duchenne, d'autres, certainement, on ne sait pas encore lesquelles, tout dépend des stocks. Et là, on va dire, ben voilà, je vais faire des images qui sont extrêmement grandes pour de la microscopie. Alors, c'est 1 mm carré, c'est un carré de 1 mm de côté. Et on va faire un certain nombre de points. Sur chacun de ces points, on va prélever ce qu'on appelle un spectre. Alors, un spectre, c'est on va enregistrer la réponse. Alors, dans le son, c'est beaucoup plus facile de faire un spectre. On comprend beaucoup plus facilement ce que c'est un spectre. Mais en fait, quand je parle à Chamy, je le vois qui opine du chef. Et parce qu'en fait, on parle exactement de la même chose. C'est-à-dire que lui, il va faire une analyse spectrale du son. Il va en sortir des harmoniques. Il va pouvoir décomposer son son et le moduler, le modifier. Ben, finalement, c'est un petit peu la même chose qu'on fait nous, sauf qu'au lieu d'être du son, eh bien, c'est de la lumière. Donc, on va envoyer une lumière laser qui a une fréquence qu'on connaît parfaitement, et on va regarder ce qui nous revient. Et en fonction de ce qui nous revient en plus ou en fonction de ce qui nous revient en moins, eh bien, on va pouvoir créer une bibliothèque. Donc là, on en est là. On est en train de créer la bibliothèque. Créer la bibliothèque, ça veut dire créer des millions et des millions de données spectroscopiques, donc l'analyse de la lumière, qui vont nous permettre de donner cette base à Centrale Supélec, qui, eux, vont créer des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, je vais leur dire, voilà, tous ces spectres-là, ce sont des spectres de muscles sains. Tous ces spectres-là, ce sont des spectres de muscles atteints de la maladie, qui est une myosite à inclusion, par exemple. Ou bien, tous ces spectres-là, ce sont des spectres de myopathie de Duchenne. Aujourd'hui, on en est à avoir créé 5% de la base de données des spectres des muscles qui n'ont pas de maladie. Donc on a récupéré deux échantillons de patients. Ça fait 2 semaines qu'on fait ça, que le système tourne jour et nuit, et qu'on a un étudiant qui travaille dessus d'arrache-pied et qui est passionné par son travail, Hugo, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais il a commencé à créer la base. Les premiers résultats qui arrivent, là, c'est de la recherche en direct. Hein, c'est les résultats qui datent depuis le début du mois de septembre dont je vous parle. Eh bien, c'est qu'on se retrouve avec des spectres qui, moi, me font peur parce qu'ils sont extrêmement divers. Donc, juste à l'intérieur d'un seul patient, eh bien, je vois une quantité de spectres extrêmement différents. Donc, on a testé 3 patients et moi, je suis incapable de dire si ces spectres sont exploitables en l'état ou pas. Il y a des millions et des millions de données. L'humain ne peut pas analyser ces spectres. Donc, on doit faire appel aux gens qui sont spécialistes de data science. Donc, moi, je travaille depuis longtemps avec Centrale Supélec, sur différents sujets. Le sujet de l'analyse spectrale, on la traite ensemble depuis presque 1 an maintenant. Et ils sont extrêmement confiants. Alors moi, c'est des gens en qui j'ai toute confiance. Et quand ils me disent qu'ils sont extrêmement confiants, je les crois, mais c'est une parole d'évangile. Je n'ai aucune preuve à l'heure actuelle que les spectres qu'on est en train de faire, eh bien, ils vont nous permettre effectivement, de discriminer, d'être capable de dire si le muscle, c'est un muscle sain ou c'est un muscle atteint d'une pathologie musculaire. C'est la difficulté à laquelle on est confronté au quotidien. Alors, on a quand même un certain nombre de fiertés quand même dans ce métier. Alors, les fiertés, des fois, elles sont à des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. On a réussi, avec ce projet-là, à décrocher deux soutiens significatifs. Le soutien de l'Agence nationale pour la recherche, ce qu'on appelle l'ANR dans notre jargon. L'ANR nous a financé 2 ans de recherche. Donc, c'est déjà extrêmement bien, ce qui nous a permis d'avoir les premiers résultats. Et sur ces premiers résultats, l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique, je crois. L'INRIA, c'est l'institut qui réunit les mathématiciens et les informaticiens et qui font des travaux de recherche à la pointe. Donc INRIA, dont fait partie les collègues de Centrale Supélec, nous a financé presque 4 ans de recherche supplémentaire. Donc, ce qui est très bien dans ce travail, c'est qu'on a eu les premiers résultats sur la souris, maintenant on passe sur l'humain. Et une fois qu'on sera en possession de la base de données spectroscopiques qui est à la fois adaptée pour le muscle sain et à la fois adaptée pour le muscle atteint de la première pathologie, eh bien je vais confier l'analyse de ces données à des gens dont c'est le travail toute la journée, et qui vont pouvoir me dire si effectivement il réussit à avoir une discrimination entre ces deux signatures spectroscopiques des muscles qui sont des muscles pathologiques ou non.
Merci Claire. Eh bien écoute, on en est à la finalité, on va voir si les gens ont des questions. Alors, beaucoup de vocabulaire un peu complexe, même si on ne va pas chercher à l'expliquer, voilà, vous avez, je l'espère, évidemment compris l'esprit du travail de recherche de Claire. Déjà, est-ce que vous avez des questions à poser ?
Vous avez 4 ans.
Oui, c'est ça.
Et combien vous pensez pouvoir faire ?
Combien on pense pouvoir faire ? J'ai pas compris.
Pour arriver à assez de données.
Ah, combien de temps on pense mettre pour créer la base de données ? Pour créer la première base de données, je pense qu'on en a pour 2 ou 3 mois. Pour créer la seconde, pareil, 2 ou 3 mois. En fait, il y a un certain nombre de standards pour qu'on puisse parler aux biologistes et aux médecins qui ont l'habitude de ces choses-là. Et les standards des biologistes et des médecins, c'est 30 échantillons. Et sur chaque échantillon, on fait à peu près 1 million de données. Et donc, 30 millions de données. J'estime là, on a fait en 15 jours, on a fait 3 échantillons. C'est... C'est vertigineux de dire ça parce qu'on va à une vitesse d'escargot, c'est incroyable. Et du coup, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura peut-être les 2 bases de données. En fait, en tout cas, quand j'ai vu les premiers résultats sur le muscle sain, je voulais tout de suite qu'on passe au muscle atteint de la pathologie parce que j'ai vraiment eu peur, parce que vraiment, il y avait une telle variabilité déjà au sein d'un seul échantillon, que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer trouver une variabilité dans l'échantillon malade, en fait.
Ce rythme d'escargot que tu décris, elle est due à quoi ? Est-ce que c'est une limitation due aux machines qui permet justement d'avoir des relevés qui vont vite ?
Oui, exactement. C'est la machine qui, pour faire une image... et donc le fameux million de points quand même dans une image, c'est 14 heures en ce moment. Donc on l'a fait tourner la nuit principalement. Et la journée, on analyse les résultats.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vous en prie.
Le fait que vous ayez recours à cette technologie liée à la lumière, c'est qu'on n'est pas capable à notre échelle de savoir discerner si il y a une maladie ou pas au niveau du muscle.
Alors, c'est une excellente question parce que ça justifie que je continue de parler un petit peu. En fait, aujourd'hui, on peut tout à fait discriminer un muscle malade d'un muscle pas malade avec la biopsie. En fait, on ouvre le patient, on lui enlève un morceau de muscle. C'est c'est traumatisant pour le patient et pour le muscle. C'est beaucoup d'argent aussi et puis ça prend du temps d'aller faire une analyse anatomopathologique. En fait, l'idée, c'est que pour faire le diagnostic du muscle, on passe par plein de, d'analyse clinique. Et l'une d'entre elles, moi, a attiré mon attention quand le médecin du CHU a voulu absolument me présenter ce qu'il faisait. C'est un électromyogramme. Alors, l'électromyogramme, c'est une façon de mesurer la réponse électrique du muscle. Et pour cela, on pique une aiguille qui, moi, je trouve énorme, mais bon, qui est toute petite en réalité, et dans le muscle. Et en fait, on va mesurer l'activité électrique par le passage des ions, en fait. Donc, l'électrode est creuse. Et moi, quand il m'a dit électrode creuse, je me suis dit, mais creuse comment ? Et en fait, le diamètre est compatible avec celui d'une fibre optique. Donc, l'idée, c'est de dire, à l'intérieur de cette électrode aiguille creuse, on va remplacer l'électrode aiguille par une fibre optique. Et en fait, le but de tout ce travail de 4 ans, c'est qu'à la fin, on puisse remplacer l'électrode aiguille creuse par une électrode aiguille à fibre optique. Donc on ne change pas le geste du médecin. Ça, c'est super important. Parce que moi, jusque-là, je travaillais avec des biologistes et des médecins en faisant des super jolies images auxquelles personne ne comprenait rien à part moi. Mais pourtant, elles étaient très, très jolies, ces images. Donc là, moi, je suis partie du principe qu'on ne va jamais réussir à faire changer le médecin de pratique, et c'est bien normal. Donc je vais m'adapter à ce qu'il fait, lui. Et lui, il sait piquer les patients avec son électrode aiguille creuse. Donc je vais utiliser ça pour que toute l'analyse qu'on est en train de faire aujourd'hui avec un microscope a créé une énorme base de données, eh bien on puisse à terme la transformer en système fibré par fibre optique pour aller directement à l'intérieur du muscle. Donc on enlève la biopsie. Donc on enlève tout l'aspect chirurgical, tout l'aspect traumatisant, tout l'aspect, c'est extrêmement coûteux. Donc voilà, c'est la finalité de nos travaux.
Et ça veut dire avoir un résultat médical quasiment immédiat ?
Exactement.
Ok. C'est un peu comme le test du Covid.
Ah ouais, ça serait fabuleux si on pouvait faire ça.
Oui, ok, d'accord. Oui. D'autres interrogations, d'autres questions pour la dernière minute que nous allons passer ensemble par rapport à ça ? Oui.
Alors, pas tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a quand même de l'espoir. Et effectivement, le résultat préliminaire qu'on avait obtenu avait permis de visualiser une discrimination à l'intérieur même d'un muscle. C'est-à-dire à aller analyser, à une échelle un peu différente, une discrimination à l'intérieur même du muscle. Donc, on avait réussi, d'une certaine manière, à faire parler l'échantillon sans marquage. Ça, c'est très, très important de ne pas avoir de colorant. Et donc de finalement dire qu'on était déjà capable à l'intérieur du muscle de souris de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc d'une certaine manière, non, nous n'avons pas rencontré ce genre de problème avec la souris.
Une autre question, on s'arrête là. Tu n'as pas besoin de donneur de muscles.
Non, mais quand vous signerez ou pas d'ailleurs, hein, l'autorisation d'utilisation des prélèvements biopsiques à des fins de recherche, eh bien, vous saurez qu'il y a quelqu'un comme moi derrière.
D'accord, ok, très bien. Eh bien, merci pour tout. Merci beaucoup.